Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Fin de semaine du 16 août 2024, ici Alex Bergeron, et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de la CFAQ 88.3 à Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver cette semaine pour finalement conclure les Jeux olympiques. Une émission par semaine, c'est ce que ça fait. Notamment, les dernières médailles qui ont été remises aux athlètes canadiens. On avait parlé, Cathy Vincent, qui est la dernière médaille. En date de l'émission, le matin même, vendredi matin même, la semaine dernière, qui décrochait la médaille d'or et qui établissait un record du monde au canot, une place 200 mètres chez les femmes, qui est une discipline, semble-t-il, assez récente. Et d'ailleurs, cette médaille-là s'est gagnée à 0-1 d'avance sur la médaille d'argent suivante. Donc, c'était extrêmement serré. Dans les faits divers, les Canadiennes et les Brésiliennes ont eu une petite chicane face au filet au volleyball de plage féminin au pied de la Tour Eiffel. Et pour arrêter la chicane, on a décidé de faire jouer Imagine de John Lennon. Donc le stade s'est mis à entonner un hymne à la paix entre Brésil et Canada qui se chicanaient. C'est pour l'anecdote. Il y avait une tension quand même. On jouait pour l'or, fait que c'est quand même pas à négliger. Les Canadiens ont tout de même remporté la médaille d'argent là-dessus. Un autre qui s'est joué au millième de seconde, c'est Marco Arap, qui est reparti avec la médaille d'argent aux 800 mètres. Il a raflé la première médaille olympique de sa carrière et la première du Canada aux 800 mètres depuis 1964. Il n'y avait pas eu de médaille qui s'était gagnée dans la discipline du 800 mètres. L'unique médaille d'or masculine pour le breaking, pour le breakdance, est revenu au champion en titre, au Canadien, au Britanno-Colombien, Philip Kim, Phil Wizard, qui a remporté cette unique médaille d'or puisqu'il sera champion olympique jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à la fin des temps, puisque techniquement, le breakdance ne reviendra pas aux prochains Jeux olympiques de Londres. De Los Angeles. C'était déjà annoncé que Los Angeles ne présentait pas le breaking. Donc, littéralement, l'unique médaille d'or aura été remise à un Canadien, côté masculin. On reviendra d'ailleurs sur la... sur la controverse entourant la participante australienne qui, en sachant n'avoir aucune chance de gagner, a décidé d'être créative plutôt que de de performer comme du monde. En tout cas, c'était très créatif, selon ses dires. Elle imitait un kangourou et une huître qui fait mal sur le côté pour les autres. Ce qui nous amène à la dernière journée, à la cérémonie de clôture. Il n'y avait plus de Canadiens en compétition à partir de ce moment-là. Ah, mon Dieu! Une des médailles les plus importantes qui a été remportée. Bon, voilà, la médaille d'argent pour les filles en volleyball. Mais toujours dans cette journée-là, la médaille d'or aux 4 x 100 mètres qui a été remportée finalement par André DeGrasse qui aura une médaille au terme de ces Jeux olympiques-ci. Aaron Brown, Jerome Blake et Brandon Rodney qui ont été les plus rapides à l'épreuve sous les yeux d'un ancien médaillé au relais 4 x 100 mètres du nom du chef de mission, Bruny Surin, qui était aux premières loges, qui a eu le droit de commenter une épreuve, et c'était la sienne. Et du côté anglophone, sauf erreur, dans les bureaux de CBC, il y avait un autre médaillé de l'équipe de Bruny Surin qui lui commentait pour le côté anglophone et qui lui, évidemment, assistait également à la passation de médaille. Donc, la dernière fois qu'une médaille d'or avait été remportée, relais, il y en a déjà eu d'autres, mais que Bruny soit là pour voir d'autres Canadiens comme lui remporter une médaille, c'était sous ses yeux que ça s'était passé. Cérémonie de fermeture, voilà donc nos porte-drapeaux canadiens, les deux révélations de ces Jeux-ci. Summer McIntosh qui, n'a plus besoin de présentation, a tout remporté à la natation, ou presque. Sauf le relais. Ça, le relais, ça a été échappé. Et la nouvelle vedette, toute gênée, bien qu'il mesure 6 pieds 7, 285 livres, me semble. Ethan Katzberg, médaillé d'or au lancer du poids. Et ce qui faisait dire, d'ailleurs, aux analystes qui avaient commenté l'athlétisme de gazon, c'est plus tout à fait ça le terme, en tout cas, qui avaient commenté l'athlétisme en parlant de Ethan, tu sais, oui, il est grand, mais c'est pas le plus gros, c'est pas le plus massif. Tu sais, il y a eu d'autres gars qui, avaient peut-être plus de poids, étaient plus larges, étaient plus forts, peut-être, soulevaient plus. Mais Ethan, dans son cas, lui, c'est un ancien joueur de basket, si je me souviens bien, qui, a été reconverti en lanceur de marteau. Et puis, donc on lui a dit, t'as peut-être un potentiel là-dedans. Comme quoi, tu sais, sa grandeur peut-être l'a avantagé. Mais autrement, c'était pas nécessairement d'avoir les plus gros bras qui faisaient en sorte qu'on tirait le plus loin. À preuve, sa compatriote féminine, qui elle aussi a remporté l'or, a tiré à peu près dans les mêmes eaux que les gars qui ont fini deuxième, troisième, quatrième. Fait que ça veut pas nécessairement dire que parce qu'on... C'est ça, voilà, il y a une plus grande force physique si on tire tout croche, que ça part dans le rideau, c'est terminé. On réussira pas... On réussira pas son coup, même si on est... Physiquement, on look plus fort. Cameron Rogers, pour bien la nommer. Ce qui fait en sorte, au tableau des médailles, que, sans surprise, les États-Unis repartent avec le plus grand nombre de médailles, avec 126 au total, ex aequo. Au tableau des médailles d'or avec la Chine, qui en ont également 40, mais au cumulatif, 91 médailles. Le Japon est en troisième avec 45. Également troisième au tableau des médailles avec 20 médailles d'or. Le Canada, quant à lui, se classe au 12e rang, finalement, terminera au 12e rang. Et des médailles d'or et au global avec 9 en or, 7 en argent, 11 en bronze. La majorité des médailles d'or a été remportée et en athlétisme et en natation. On en doit 8 en natation, dont voilà 3 uniquement en or par Summer McIntosh, je le rappelle, au papillon. 200 mètres, 4 nages, 200 mètres, 4 nages, 400 mètres et une médaille d'argent, 400 mètres, nage libre. Voilà, les hommes, eux, ont remporté 100 mètres papillon, Josh Liendo, 100 mètres papillon et 200 mètres papillon, il y a Karun. La dernière médaille de bronze, Kylie Mass, aux 200 mètres d'eau. Au tableau des médaillés, les personnes se méritant le plus de médailles, Summer McIntosh occupe la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e place avec ses 4 médailles totales. À la première position, c'est Zhang Yufei, nageuse elle aussi, qui a remporté 6 médailles, 5 de bronze au relais, 4 x 100 mètres, 4 nages, 4 x 100 mètres, nage libre, 100 mètres papillon, 200 mètres papillon, 50 mètres, nage libre, donc c'est littéralement la catégorie sprint. Et elle a remporté également la médaille d'argent au relais, 4 x 100 mètres, 4 nages pour les femmes. On dirait qu'elle a 2 fois la même médaille, mais ça ne semble pas être la même compétition. Donc, pour celle qui repart avec le plus de médailles de toutes les compétitions avec le nombre de 6, suivie du grand favori local, puisqu'il est français, Léon Marchand, qui repart, lui, avec 5 médailles, 4 en or, natation 200 mètres brasse, 400 mètres, 4 nages, 200 mètres, 4 nages, 200 mètres papillon et une médaille de bronze au relais, 4 fois 100 mètres, 4 nages chez les messieurs. Ex-aequo sur la même marche, on retrouve 4 autres athlètes, 2 Américains, 2 Australiens, Tori Husk, Regan Smith des États-Unis, Molly O'Callaghan, Kylie McKinnon de l'Australie. Est-ce que c'est tout en natation? Ce sont tous des nageurs qui repartent avec ex-aequo, 5 médailles, toute la gang. Summer McIntosh complète la marche, voilà, avec 4 ex-aequo, avec une autre sensation qui a fait énormément jaser en gymnastique artistique, Simon Bales. Shinosuke Uka également en gymnastique artistique. Ariarne Titmus en natation pour l'Australie. Kate Douglas, Gretchen Walsh, Cathy Ledecky, Rebecca Andreade, Jungsen Yang, tous médaillés à 4 reprises en natation, gymnastique artistique, tout ça mélangé, voilà. Donc, ces jeux-là qui se sont terminés. Léon Marchand, comme je le disais, énorme sensation française, bien qu'il soit lui aussi l'être le plus gêné sur la planète, probablement, qui n'aime pas particulièrement être sous le feu des projecteurs, pour l'avoir vu en entrevue à quelques reprises, le répéter que oui, c'est fantastique, c'est fabuleux, mais j'ai hâte que ça passe. Il a refusé notamment l'invitation de plusieurs talk shows en France pour justement parce que justement il n'aime pas particulièrement les projecteurs. Il y a des entrevues avec son père, lui-même nageur début 2000, qui ont été ressorties où on voyait un Léon Marchand 3 ans à peu près dans les bras de son père qui célébrait lui sa victoire de médaille. Donc, dans ce cas-ci, c'est en revenant de Sydney, ou 2002. Non, c'est une médaille anniversaire. Fait que probablement Atlanta 92, ça faisait 10 ans, 2002, ça ferait du sens. Atlanta 92? Non, Barcelone 92. Je mélange encore une fois tout. Atlanta, c'est 96, me semble. J'y vais de mémoire. Léon Marchand, qui a fermé la cérémonie d'ouverture, littéralement, est allé chercher la flamme à la Montgolfière d'eau au Jardin des Tuileries avant de revenir au Stade de France où la cérémonie de fermeture, de clôture avait lieu. Cérémonie beaucoup plus sobre que la cérémonie d'ouverture, évidemment. Le God Assassin's Creed était de retour. Celui qui courait sur les toits de Paris. Voilà, on a C'était déjà prévu qu'on peut-être qu'on était un peu plus sobre sur la cérémonie de fermeture. Évidemment, avec la controverse de la cérémonie d'ouverture, peut-être qu'on a tourné down un petit peu. Il a fallu attendre les explications des présentateurs, ou en tout cas des gens qui commentaient la cérémonie d'ouverture pour comprendre que c'était la représentation d'un monde sans Jeux olympiques et qu'un moment donné, ben, l'avènement des Jeux faisait en sorte que c'était plus beau. En tout cas, c'était très flou. Je vais l'avouer, je ne l'avais pas compris au départ ce que c'était supposé représenter. Mais voilà, un peu moins place à controverse, en tout cas, on l'espère. Et sinon, les Américains, eux, ont sorti parce qu'une petite partie de la cérémonie de fermeture s'est déroulée directement depuis les plages de Los Angeles pour promouvoir les prochains Jeux dans 4 ans avec... Encore une fois, une autre vedette américaine pendant les Jeux olympiques, Snoop Dogg, qui s'est promené un peu partout sur les sites, costumé ou non, à réagir aux différents sports, mais probablement que c'était entre autres parce qu'il allait faire la cérémonie de fermeture du côté de Los Angeles. Dr. Dre, Billie Eilish étaient également de cette cérémonie-là. Les Red Hot Chili Peppers étaient également là. Donc, voilà, quand on sera du côté d'Hollywood, quand on sera du côté de Los Angeles, on aura le droit à beaucoup de vedettes américaines, certainement, pour la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de fermeture. Tom Cruise aussi, qui est apparu pour voler le drapeau olympique puis partir avec. C'était bizarre, mais ça prenait quelqu'un qui était game de sauter en parachute. Fait que, ils ont demandé encore à Tom. 60 ans, Tom Cruise, quand même. Donc, qui est allé saluer les athlètes, partir avec le drapeau olympique et l'amener du côté américain. Donc, dans 4 ans, les prochains Jeux olympiques 2028. On s'arrête quelques instants au retour. Cette fameuse controverse australienne avec la danseuse, ou en tout cas la B-girl breaking féminin qui s'est mérité 0 point pour sa créativité et son imitation de kangourou plutôt que de faire du breakdancing. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFA 80.3 et de Chiz 94.3. Dom, Sam et PH qui forment les Mariannes, en parlant d'ironie. Je l'avais en tête puis il est apparu sur mon Spotify cette semaine. Fait que voilà, les Mariannes de retour en 2024 en musique sur les ondes de CFA 80.3, sur les ondes de Chiz 94.3 à Québec. Salutations les Mariannes. Voilà, je l'ai parlé un petit peu avant la pause musicale. Comité olympique australien dénonce les moqueries à l'encontre de Regan, la B-girl de la compétition de breaking aux Olympiques. Comité olympique australien a dénoncé jeudi cette semaine une pétition visant la breakeuse australienne Regan, cible de nombreuses moqueries suite à sa performance aux Jeux olympiques de 2024. Rachel Gunn, 36 ans, a été sous le feu des projecteurs pour ses talents prétendument médiocres lors des Jeux olympiques de Paris, suscitant le flot de critiques en ligne. Une série d'articles concernant des allégations non vérifiées ont depuis remis en question la façon dont Regan a obtenu sa place aux Jeux olympiques. Après la diffusion d'une pétition sur Internet même, le comité olympique a riposté, il a qualifié le texte hébergé sur la plateforme change.org qui a recueilli 46 000 signatures de vexatoires, trompeurs, intimidants et a exigé qu'elles soient immédiatement retirées. La pétition contient de nombreux mensonges destinés à susciter la haine contre une athlète qui a été sélectionnée dans l'équipe olympique canadienne à l'issue d'une épreuve de qualification et d'un processus de nomination transparent et indépendant. Les mouvements de Mme Gunn, qui a notamment imité un kangourou et son survêtement vert officiellement légèrement démodé qu'elle portait au lieu de vêtements de mode urbaine, ont même été parodiés dans le monde entier. Plusieurs parodies sur Internet, mais elle a également gagné le soutien de ses collègues olympiens australiens, notamment Jess Fox, double médaillé d'or en canoë-kayak. Les gens sont si prompts et méchants, elle ne mérite pas ça, avait déclaré l'athlète à son retour en Australie. La controverse, où elle est partie? Regan, bon 36 ans, serait une chercheuse universitaire en breakdance. Donc, elle est en études culturelles, elle a un doctorat en danse là-dessus. Elle a fait des recherches. Elle connaît le sujet en tant que tel. Elle a participé à un concours de qualification. Là, c'est là que commence un petit peu la dérape. Il y en a qui disent que son mari était sur le comité organisateur. Des fois, ça devient un des jurys principaux. Et la compétition en tant que telle, la compétition aurait été organisée par Reagan elle-même ou son mari et ou les deux. Donc là où commencent les points d'interrogation et justement d'où l'origine de cette pétition-là. Ce qui fait en sorte également que, bon, la compétition de Reagan a été mise en ligne. Elle l'a remportée, mais c'était très serré. C'était 15 à 12, si je me souviens bien. Donc, pour les votes, le système de vote, c'est qu'il y a 9 évaluateurs, 9 juges, 9 old breakdancers qui évaluent les manches. En finale, c'est 3 manches, donc 9 votes possibles, 18 puis 27. On donne une note par rapport à ça pour ce qui est d'une finale. Dans le cas des qualifications où Reagan a participé, dans son cas à elle, c'était 2 manches de 9 qu'elle a perdu les 3 fois. Ce qu'elle avait dit dans une première entrevue, c'est justement c'est qu'elle savait que les breakdancers contre qui elle allait affronter et contre qui il y avait en général dans le tournoi étaient meilleurs qu'elle. Elle avait décidé d'être plus créative que d'y aller de moves de breakdance auxquels on aurait pu s'attendre de sa part. Ce qui a fait en sorte que sa première chorégraphie, sa première manche, a donné droit justement aux images qui ont circulé dans le monde entier, qu'elle a imité un kangourou, qu'elle s'est couchée au sol en faisant l'huître qui clappe. Tu sais, elle... c'était pas super convaincant pour le breakdance comparé aux autres qui, justement, faisaient des pauses, tournaient sur leur tête, se tenaient sur une main avec les jambes en l'air. Fait que, tu sais, oui, c'était peut-être des mouvements conventionnels, entre guillemets, mais c'est un peu ce qu'on s'attendait de cette compétition-là. Donc, venant en plus d'une personne qui a étudié le mouvement de breakdance, qui a étudié la danse, les chorégraphies, qui connaît techniquement son sujet, de vouloir commencer à faire de la danse expérimentale dans une compétition olympique. Là aussi, le point d'interrogation s'est levé en voulant dire pourquoi elle a fait ça, t'sais, pourquoi est-ce qu'elle prenait ça au sérieux pour vrai? Ou justement, ça venait mettre un point d'interrogation, c'était coudonc. Elle a-tu pris la place d'une autre Australienne qui, elle, aurait performé pour vrai en allant aux Jeux olympiques malgré la difficulté, entre guillemets, qu'aurait eu à affronter les autres big girls. Fait on peut comprendre l'état où on est fâché, justement, qu'elle n'ait peut-être pas pris ça autant au sérieux, ou du moins que sa démarche a fini par ne pas être aussi sérieuse qu'elle aurait dû être. Ça, la question se vaut. Mais évidemment, les dérapages sur Internet, si ça reste à être des blagues, c'est pas si mal. Évidemment, il y a du dérapage, on est en 2024. Fait qu'elle-même qui dit « je m'attendais pas à recevoir autant de haine en ligne », là, un moment donné, faut être réaliste un petit peu. Là. On est en 2024, comme je le dis. Un mot de travers d'une personne peut faire en sorte qu'elle reçoive des menaces de mort. Fait que dans son cas, elle, évidemment, elle a été menacée du côté australien. Fait que, ben, du côté australien, en général, elle a été menacée, mais le comité olympique australien, lui, a dû réagir justement de par la pétition parce que ça commençait à prendre des proportions beaucoup trop élevées, beaucoup trop exagérées. Surtout parce que les Jeux olympiques sont passés. Quand même qu'on disqualifie l'Australie, elle a marqué aucun point de toute façon. Elle a perdu les 6 manches qu'elle avait et elle a obtenu un score de 0 sur 18 les trois fois. Fait que de toute façon, elle ne passait pas à une autre étape dans la compétition. Est-ce que c'était le temps d'être créatif et de faire un peu n'importe quoi? Évidemment que non. Est-ce que ça ridiculise la compétition? Oui et non. T'sais, plusieurs autres breakdancers ont pris la parole pour dire franchement, arrêtez ça. Elle ne mérite pas ça. La médaillée d'argent, Dominika Benvic, Nika, a dénoncé la situation sur ses réseaux sociaux à elle. Une autre compétitrice, athlète ukrainienne, Katerina Pavlenko, Kate, il est allé d'une publication similaire. Etc., etc. Donc, on a pris la défense, malgré tout, de la breakdancers, mais parce que, encore une fois, les réseaux sociaux alimentent les conflits et font en sorte que ça aggrave plus que ce que c'est. Évidemment, il y a eu des dérapes depuis la semaine dernière. On essaie de tempérer le tout, mais bon, est-ce que... Il y aura vraiment lumière sur le fait que la compétition était avantagée pour elle. Ça commence à être tiré par les cheveux, mais est-ce que la compétitrice de Reagan était si moins bonne que ça pour qu'elle soit déclarée vainqueur? Mais à 15-12, c'est serré, là. Fait que, tu sais, c'était pas unanime non plus qu'elle remportait cette compétition-là. T'sais, c'était 2-1 pour les manches, les votes 15-12. Fait que c'était pas unanime non plus à la qualification. Fait est-ce qu'on aurait eu avantage à envoyer quelqu'un d'autre? Pas nécessairement, parce que dans son cas, elle a décidé que finalement, elle serait créative. Fait que ça, tu peux pas non plus prévoir ça d'avance. Ou en tout cas, tu peux lui dire de pas faire ça, mais elle a décidé de le faire quand même, parce qu'on peut pas être créatif dans n'importe quel sport. Ça reste quand même des Jeux olympiques. Tu sais, commencer à être créatif au plongeon puis de tous traiter nos plongeons parce que c'est drôle, je penserais pas. Là. Fait que tu sais, il y a un peu des deux. Il y a elle qui ne mérite pas des menaces de mort pour avoir essayé quelque chose qui, évidemment, s'est reviré contre elle. Mais en même temps, elle, en étant aux Jeux olympiques et non pas dans une compétition de bar à Melbourne... Il y a une différence. T'sais, elle était sur la scène des Jeux olympiques de Paris. Là. C'était pas une compétition de fin de semaine pour le fun dans un bar quelconque. Là. C'était les Jeux olympiques. Fait elle ne mérite pas son sort. C'est sûr et certain. Mais être créative aux Jeux olympiques, ça n'a pas nécessairement sa place non plus. Enfin bref, on s'arrête là-dessus. Au retour, la suite du deuxième service sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIZ 94.3. De retour au deuxième service, Ariane Roy, Valence, qu'on vient d'entendre avec Charlie sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. Pour démêler finalement le tableau des médailles, Bruni Surin a participé aux Jeux de Barcelone en 92. Il avait terminé quatrième au 100 mètres, mais en 96, aux Jeux d'Atlanta, il avait remporté la médaille d'or aux 4 x 100 mètres, comme l'aura fait quelques 28 ans plus tard, André De Grasse et son équipe aux 4 x 100 mètres également. Donc, dans la même compétition que son chef de mission, Bruni Surin. Donc, voilà pour ça. Autre controverse qui avait eu lieu, c'était avec notamment la boxeuse Eman Khelif qui a décidé de porter plainte du côté de la France. Donc, elle a décidé qu'il y ait officiellement enquête pour cyberharcèlement aggravé, déposé par la boxeuse qui est finalement médaillée d'or dans sa catégorie aux Jeux olympiques, victime d'une polémique sur son genre à cause justement de la désinformation. On avait parlé un petit peu à l'émission. Eman Khelif a remporté la finale des moins de 66 kilos aux Jeux olympiques de Paris et s'est retrouvée au cœur d'un scandale autour d'elle, autour de son genre, d'une controverse qu'elle n'avait pas demandée. Ça survenait à la suite de l'abandon de l'Italienne qui n'avait pas compris que dans la boxe, il fallait se taper dessus. Fait qu'elle a déclaré faillite. Enfin bref. Depuis ce moment-là, elle avait en huitième de finale, elle était au cœur de la controverse sur les réseaux sociaux. Eman Khelif s'est défendu après son sacre olympique en se qualifiant de femme forte, dotée dotée de pouvoir et qui allait saisir la justice. Tout juste médaillée d'or aux Jeux olympiques de Paris en 2024, la boxeuse Iman Khalif a décidé de mener un nouveau combat, celui de la justice, de la dignité et de l'honneur, avait écrit dans un communiqué de presse samedi dernier son avocat Nabil Boudzi, annonçant avoir déposé plainte de la veille et dénonçant un lynchage numérique. Ce lynchage allait être contre les principales sources de la haine qui a été déversée par elle. Donc, ceux qui avaient le plus grand rayonnement et qui ont alimenté le fait que par la désinformation, elle serait un homme, chose qui n'est pas vraie. Selon le magazine américain Variety, le milliardaire Elon Musk, propriétaire de X, sans surprise, se retrouve sur cette liste-là. J.K. Rowling, connue pour Harry Potter et hautement transgenre sur les hautement contre les trans sur les réseaux sociaux, sont dans les deux noms les plus souvent revenus et cités, connus pour ses positions controversées, les deux dans leur cas. Sur les personnes transgenres sont cités dans la plainte. L'enquête à Paris a été ouverte par le Pôle national de la lutte contre la haine en ligne pour cyberharcèlement en raison du genre, injure publique en raison du genre, provocation publique à la discrimination et injure publique en raison de l'origine. Selon le parquet français, début août, une autre enquête pour cyberharcèlement avait été ouverte à Paris après les menaces et insultes proférées en ligne contre Thomas Joly, le responsable artistique de la cérémonie d'ouverture et de fermeture des Jeux olympiques de Paris en raison de son orientation sexuelle, de ses origines israéliennes qui lui étaient prêtées à tort, donc parce qu'il y avait un visage qui avait l'air israélien, il faut le menacer de tout ça, semble-t-il. Donc voilà. On décide d'y aller avec les principaux noms. Bon, dans ce cas-ci, J.K. Rowling, Elon Musk, parce que Twitter, c'est leur cheval de bataille pour semer la controverse. Au Royaume-Uni, il y a le commentateur politique Piers Morgan qui pourrait être appelé à être cité. Il fallait y aller au Québec, ben ce serait les traditionnels Mathieu Bock-Côté et Joseph Facal qui y passeraient, mais bon, je pense pas qu'on descende jusqu'à venir dans les journaux locaux québécois, mais quand même, il y en a eu aussi. En tout cas, ces deux-là sûrs. Voilà, donc Elon Musk, J.K. Rowling qui étaient les principaux. C'est pas les premiers jeux. Et c'est ça l'important, c'est pas les premiers jeux auxquelles elle participe. En parlant de Iman Khalif et de l'athlète taïwanaise Lin Yuthing, elle aussi avait été emportée dans cette controverse-là. En 2021, pour les Jeux de Tokyo de 2020, elles étaient présentes. Elles ont concouru aux Jeux de la pandémie. Et il n'y avait pas de controverse à ce moment-là. C'est vraiment uniquement après que les Jeux aient décidé de couper les liens avec avec la Fédération de boxe russe qui gérait les tests, qui gérait les tests de, pas d'ADN, mais les tests de, voilà, les tests antidopants et tout ça. Donc, et que dans ces tests-là, on avait testé les chromosomes dans le cas d'Iman Khalif. Et qu'on a décidé d'extrapoler ça en disant que, bon, elle a les deux chromosomes, donc c'est un homme. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Il y en a qui sont porteurs des deux chromosomes, mais qui sont quand même femmes assignées à la naissance, mais qui sont femmes quand même en bout de ligne. Donc, Iman Khalif se retrouve dans cette situation-là. Et en 2023, lorsqu'elles avaient été disqualifiées des jeux, des compétitions de 2023, c'était parce qu'elle avait un niveau de testostérone trop élevé. Pas parce que des tests avaient révélé qu'elle était un homme. Ça n'avait aucun rapport. Elle avait été qualifiée dans de précédentes compétitions, ne serait-ce qu'en Algérie, qui n'est pas spécialement ouvert culturellement envers les transgenres, ne serait-ce que par les autres compétitions internationales auxquelles elle a participé. Donc, ça ne se peut pas culturellement en Algérie qu'elle représente le pays en tant qu'athlète transgenre. Ça ne se peut pas. Ce n'est pas, ça n'arriverait pas si c'était vrai. Donc, dans son cas, c'est une femme. Peu importe ce que justement la désinformation russe essaie de faire dire pour faire en sorte que le nouveau comité de boxe laisse passer des affaires que nous, si ça avait été nous, les Russes, on ne l'aurait pas laissé faire. Donc, il y a beaucoup de tout ça également en arrière de ça. Donc, autant il y a de la jalousie de l'ancien comité qui gérait la boxe, autant que la désinformation sur les réseaux sociaux va à une vitesse fulgurante. Et quand c'est alimenté par justement des sources qui sont plus connues ou en tout cas qu'on connaît leur position controversée, notamment J.K. Rowling, Elon Musk, Piers Morgan, ça fait en sorte que justement cette nouvelle-là est partagée parce que des gens qui, malgré tout, vont dire « Ah, mais là, si eux autres le disent, ah, ben là, c'est quand même des gens importants, si eux autres disent ça, ça doit être vrai, car ils sont dans le champ. » Voilà, selon la Fédération internationale de boxe, l'IBA, Iman Khalif avait échoué un test destiné à établir son genre non reconnu par le monde olympique. L'IBA a refusé de préciser quel type de test avait été pratiqué. Fait qu'il s'est vraiment, il est vraiment juste eu un gars, un moment donné, qui est sorti pour dire « Ouais, le test qu'on a fait, fait dire que c'est un homme. Quel test? » On a fait un test. C'est tout. Donc voilà, l'IBA qui n'est plus reconnu par les Jeux olympiques pour arbitrer littéralement la compétition de boxe. Je suis pleinement éligible pour participer. Je suis une femme comme les autres. Je suis née femme. J'ai vécu en tant que femme et j'ai concouru en tant que femme, avait insisté Iman Khalif, championne olympique. Maintenant, je suis une femme forte avec des pouvoirs spéciaux. Voilà, dans le ring, j'ai envoyé un message à ceux qui étaient contre moi. J'ai fait l'objet d'attaques, d'une campagne féroce et c'est la plus belle réponse que je puisse leur donner. La réponse a toujours été sur le ring. Donc, en espérant que ça se passe bien, que ça se passe bien pour elle. Voilà, Iman Khalif qui amorce un très, très long parcours de rétablir malgré tout sa réputation, bien que de toute façon, les dés sont joués sur les réseaux sociaux, mais en espérant que ça se conclue bien du côté de la justice française, dans son cas, pour elle. On sera quelques instants au retour. La conclusion de l'émission cette semaine, vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ 80.3 et de CHIZ 94.3. Le couleur, sentiment nouveau qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. Nouvelle un peu particulière, ou en tout cas, il y a un petit peu de malhonnêteté qui provient encore une fois du Parti conservateur du Canada. Justin Trudeau était en convention libérale du côté de Sudbury et a logé au Holiday Inn de Sudbury, qui n'est pas l'hôtel le plus luxueux de la place non plus. Et les conservateurs ont quand même accusé Justin Trudeau d'engager des dépenses, de faire des dépenses, encore une fois, de dépenser tellement d'argent de la poche des contribuables en étant au Holiday Inn de Sudbury. Voilà, donc il rencontrait son caucus libéral au Holiday Inn de Sudbury. Et voilà, ben, les conservateurs, en voulant essayer peut-être de faire tasser la controverse des dernières semaines où il y avait des comptes robots sur Twitter qui encensaient Pierre Poilievre à la fin d'un rallye, mais que le trois quarts, si c'est pas 100% des comptes robots, ne venaient pas du Canada, venaient de pays de l'Est de l'Europe, venaient de l'Asie. Pour dire à quel point Pierre Poilievre avait fait un tellement bon rallye, mais que le message était à peu près copié-collé de tous ces robots-là. Fait que l'espèce d'engouement un peu faux et très, très faux, en fait, avait fait parler, somme toute, un peu, mais tu sais, n'avait pas été non plus la controverse de la semaine. Et puis bon, les conservateurs qui tentent d'imputer des dépenses folles à Justin Trudeau devrait faire attention. Parce que lorsqu'on regarde les dépenses de et Justin Trudeau et Pierre Poilievre de la dernière année et demie, On se rend compte que Pierre Poilievre a le portefeuille très léger, lui aussi. La carte de crédit qui se fait aller même énormément plus que Justin Trudeau, dans plusieurs catégories d'ailleurs. On a comptabilisé les dépenses de Pierre Poilievre et de Justin Trudeau depuis voilà, la dernière année et demie. Et Pierre Poilievre a dépensé 41,81% plus d'argent aux contribuables canadiens que le premier ministre lui-même. On estime les dépenses de Justin Trudeau aux Canadiens à 5 095 646,89 $. Mais Pierre Poilievre, lui, facture plutôt 8 757 514,11 $ aux Canadiens. Où la facture est énormément élevée, c'est pour les dépenses de voyage et la catégorie qu'on appelle hospitality. Hospitality n'est pas tout à fait bien définie dans l'article que j'ai trouvé en ligne, mais pour la catégorie voyage seulement, c'est les nombreux rassemblements que Pierre Poilievre a fait un peu partout au Canada depuis la dernière année et demie, dont la location probablement du VR qu'il a utilisé cet été pour sillonner les routes du centre du Québec et de Chaudière-Appalaches, totaliserait un total de 682 484,94 $ aux contribuables québécois. Ça, c'est Pierre Poilievre. Tandis que Justin Trudeau aurait seulement une facture de 10 276 $. Et ça, ces chiffres-là, ils ont l'air pas élevés, mais ils sont comptabilisés par la Chambre des communes, donc par le Parlement lui-même, pour justement les dépenses qui sont remboursées. Les chiffres sont accessibles sur le site des communes du Canada. En salaire de personnel, Pierre Poilievre a chargé 6 847 000. Justin en a chargé 4 731 000. Pour les frais d'hospitalité, comme je le disais, Justin Trudeau aurait facturé un 0 $, tandis que Pierre Poilievre a une facture de 65 317,84 $. Et finalement, en contrat de travail, donc qui inclut des dépenses de son équipe, des contrats de service, de la publicité, des cadeaux, des factures de bureau, de manutention de bureau, de training, dans des cours, je ne sais pas trop. Justin Trudeau a une facture de 354 000. Pierre Poilievre aurait 1 162 588 et 68. Donc, quand on parle d'un Pierre Poilievre qui dénonce les dépenses libérales et tout ça, il faudrait qu'il commence à regarder dans sa propre cour. Parce que là, quand on parle de factures de 70 % plus en contrats donnés, 30 % de plus en salaire, 98 % plus en facture de voyage, parce qu'évidemment, lui ne dort pas au Holiday Inn si on se fie à sa facture de 682 484,94 $ pour, je le rappelle, un total de 8 757 000 de dépenses à lui seul depuis qu'il est devenu chef des conservateurs. C'est un chiffre assez impressionnant. Tout ça en uniquement un an et demi, ce qui est quand même particulier. Donc, quand sera-t-il lorsqu'il deviendra premier ministre? La question est lancée, mais pour l'instant, une différence de 40 % entre les deux, Pierre Poilievre étant 40 % plus dépensier que Justin, ça reste quand même particulier, on va se le dire. Donc, voilà pour ça. Quand on dit cordonnier mal chaussé, ou en tout cas... Regardez dans sa propre cour avant de critiquer le voisin d'à côté et mélanger les expressions comme vous le voulez. Mais reste qu'en ce moment, Pierre Poilievre coûte beaucoup plus cher aux Canadiens, n'étant que le chef de l'opposition et non pas le premier ministre actuel. Donc, watch out! Lorsqu'il sera premier ministre et qu'il se déplacera au nom du Canada, il n'ira pas, comme on le disait, au Holiday Inn de la place. Ça, on peut s'en douter. On s'arrête là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service, ici même sur les ondes de CFAQ 80.3 et de CHIZ 94.3. À la semaine prochaine. Salut!